Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Trente-neuf associations dénoncent une année noire pour les personnes mal logées ou sans abri. Notre invitée sera la porte-parole du collectif des associations Unies, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, Nathalie Latour. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien soupçonné de lien avec le Hamas. C'est arrivé à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Le 15e Festival national du théâtre professionnel s'ouvrira ce vendredi à Alger. Nous y reviendrons avec Faisal Metawi, journaliste à 24 heures Algérie. Les femmes afghanes ont manifesté ce jeudi à Kaboul, rassemblement éclair, pour protester contre les mesures liberticides prises par le régime des talibans. Un attentat à la bombe en Irak, 2 soldats sont morts, 3 blessés dans le nord du pays. C'était ce jeudi à Vaux-en-Velin, dans le Rhône, une marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie qui a tué 10 personnes le 15 décembre dernier. L'invitée de Pluriel était Céline Malaisé, conseillère régionale d'Île-de-France, présidente du groupe Gauche communiste écologiste et citoyenne au Conseil régional. Elle alerte notamment sur l'effondrement du réseau de transport en commun en Île-de-France. Extrait dans votre édition. Le collectif des associations Unies tire la sonnette d'alarme. La situation des personnes à la rue s'aggrave, une aggravation malgré la pérennisation des places créées durant la crise sanitaire. Entretien avec la porte-parole du collectif Unies, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité, Nathalie Latour.
Les craintes, c'est que depuis la rentrée scolaire, nous avons alerté sur le fait que les chiffres indiquant le nombre de personnes qui étaient sans solution d'hébergement étaient hauts, et particulièrement des familles avec enfants. Cette mobilisation a permis d'obtenir que le gouvernement n'enlève pas les 14 000 places d'hébergement d'urgence qu'il prévoyait en fait de supprimer. Malheureusement, même si on a obtenu le fait qu'on reste à 197 000 places d'hébergement, ce n'est aujourd'hui pas suffisant, puisque en pleine période hivernale et de plein grand froid, on a encore au 5 décembre plus de 5 000 personnes qui ont appelé le 115 sans obtenir de place d'hébergement d'urgence, dont 1346 enfants. Donc ça, c'est du côté de l'enjeu sur vraiment l'urgence et la mise à l'abri des publics. Mais on a aussi tout un enjeu sur le logement et l'accès au logement, parce qu'on veut surtout développer et maintenir l'accès au logement. Et c'est vrai que ce plan logement d'abord a été plus ou moins mis en sourdine sur l'année 2022. Et là aussi, nous mobilisons pour dire que pour qu'on arrive à résoudre le problème en fait du sans-abrisme et du mal-logement, il faut impérativement qu'on ait une politique très structurée de la rue au logement, avec des engagements pluriannuels, structurels, de la part bien sûr de l'exécutif et en lien avec les collectivités. Aujourd'hui, ça reste un sujet qui est trop traité selon finalement l'enjeu du thermomètre ou de la conjoncture et des besoins des personnes, et pas suffisamment encore de façon ambitieuse et approfondie.
Vous évoquez ces plus de 5000 personnes qui n'ont pas obtenu de place d'hébergement après avoir appelé le 115 le 5 décembre dernier. Concrètement, cela signifie que ces personnes ont été contraintes de dormir dans la rue ?
Exactement, c'est que les personnes ont été contraintes de dormir dans la rue ou de trouver des solutions de fortune. On sait que sur ces 5000-là qui sont comptabilisés, on sait que, par exemple, sur l'exemple du 115, du 93, qu'il y a 70% de personnes qui n'osent plus appeler ou qui n'appellent plus ou qui se découragent pour appeler le 115. Donc c'est un chiffre qui, de fait, est sous-évalué. Et notamment, si on reprend cet exemple-là, sur les 2000 appels qu'ils ont par jour, ils réussissent à en décrocher 350 à 500. Et sur ces 350 à 500, ils ont uniquement 2 propositions.
Vous déplorez également le vote par l'Assemblée nationale au début de ce mois d'une proposition de loi favorisant les expulsions de logements. Cette proposition de loi appelée la loi anti-squat.
Exactement. En fait, cette loi pour nous est vraiment tout à fait inquiétante et quand même scandaleuse, parce que justement elle va produire 2 fois plus de personnes à la rue. Il y a déjà beaucoup de dispositions qui existent du côté de la protection, encore une fois, des propriétaires, ce qui est complètement normal. Là, on passe un cap supplémentaire, c'est-à-dire que on renforce l'arsenal pour mettre en prison des gens qui ont des problèmes pour payer leur loyer, par exemple. ou quand on parle de squat, le squat des logements privés est déjà prévu. Il y a déjà des choses qui font qu'on ne peut pas occuper un logement privé comme ça de n'importe quelle façon. Donc là, c'est vraiment du squat de logement, on va dire, plutôt abandonné ou public. Donc on mélange vraiment, on est en pleine crise du logement et on a l'impression qu'on va régler cette crise en s'attaquant aux personnes qui en sont elles-mêmes victimes, si vous voulez. Et on a vraiment l'impression que les misérables sont de retour, c'est-à-dire que voilà, on va se mettre en prison parce qu'on est pauvre.
Ces personnes les plus précaires sont les plus impactées, bien entendu, par cette inflation galopante en France. Vous, au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, vous voyez déjà les effets de cette inflation, notamment l'impact de la crise énergétique ?
Oui, on est très inquiet sur l'impact de la crise énergétique parce que déjà, on voit à travers nos membres comme le Secours catholique ou la Fédération des banques alimentaires qui ont rendu public leur rapport qu'il y a une augmentation extrêmement importante des personnes qui viennent demander de l'aide et notamment la question alimentaire. Ça, c'est factuellement, on voit cette dégradation. On sait que pour des familles, par exemple, la question de l'énergie et du logement, ça occupe 65% de leur budget. Donc quand vous avez le coût de l'énergie qui monte avec des budgets aussi contraints et une proportion de 65% de votre budget et que vous cumulez à ça l'inflation sur les prix aussi d'alimentation, on est sur des équilibres qui sont extrêmement fragiles, pour pas dire impossibles à tenir pour des personnes qui sont vraiment à la frontière. Et donc ça crée une inquiétude importante sur le maintien dans le logement de plusieurs centaines de personnes.
Et en tant que porte-parole du collectif des associations unies, vous rappelez ce chiffre, hein, plus de 600 personnes meurent à la rue chaque année.
Exactement, c'est pour ça que cette question d'une politique ambitieuse de la rue au logement, on entend souvent, on s'engage à avoir zéro SDF ou personne sans domicile fixe à la rue, on peut y arriver. Mais ça demande encore une fois une régularité, des choix politiques à faire. Parce que l'impact que ça a, c'est que, y compris dans ces périodes hivernales ou de grandes canicules, c'est des questions de vie ou de mort.
Vous ne sentez pas aujourd'hui de réelle volonté politique sur ce plan ?
Il y a eu un engagement politique du ministre du Logement, puisqu'il a rappelé qu'il voulait zéro enfant à la rue. Ce qu'on a du mal à percevoir, c'est la mise en œuvre de cette déclaration, qui reste encore, encore une fois, sur laquelle on avance, mais vous voyez bien qu'il reste beaucoup de personnes à la rue. Et ce qu'on a du mal à percevoir, c'est que si on veut avoir un plan logement d'abord 2, il faut tout simplement avoir une politique du logement ambitieuse. Et aujourd'hui, nous, il faudrait 160 000 logements par an. La réalité, c'est qu'on en construit entre 80 et 95 000. On n'a eu aucune annonce ambitieuse sur la question de la reprise du logement de la rénovation énergétique qui nous permettrait d'inverser cette tendance.
Nathalie Latour, porte-parole du collectif UNI, directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien soupçonné de lien avec le Hamas. C'est arrivé à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Dans la foulée d'attaques meurtrières en Israël, en mars et avril dernier, l'armée a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jenin et Naplouse. Un attentat à la bombe en Irak. 2 soldats ont été tués, 3 blessés. L'attaque menée dans le nord du pays a visé leur véhicule militaire. Attentat imputé aux terroristes du groupe État islamique. Des femmes afghanes ont manifesté ce jeudi à Kaboul, un rassemblement éclair pour protester contre les mesures liberticides prises par le régime des talibans, le régime qui leur a interdit d'étudier à l'université, initialement prévue devant le campus de la capitale. La manifestation a dû être déplacée à cause du déploiement de nombreuses forces de sécurité armées. Réaction de l'Union Générale Tunisienne du Travail après la faible participation lors du premier tour des élections législatives samedi dernier en Tunisie. La centrale syndicale évoque une prise de position du peuple face à un processus ambigu qui n'a fait que sombrer davantage le pays dans des crises. L'UGTT qualifie d'explosive la situation en Tunisie. Le début ce vendredi du 15e Festival National du Théâtre Professionnel à Alger. Il aura lieu jusqu'au 1er janvier prochain. Pour nous en parler, Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est l'un des festivals les plus importants en Algérie, c'est le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger qui aura lieu du 23 décembre au 1er janvier 2023. Habituellement, ce festival se tient toujours à la fin de l'année. Il y a une trentaine de spectacles qui sont prévus, dont 13 dans la catégorie officielle, c'est-à-dire dans la compétition. Et le reste, c'était en hors compétition ou au festival de la rue. Le festival de la rue est plutôt le théâtre de la rue. Les autres, c'est le théâtre de la rue. Le théâtre de la rue est très, très présent en Algérie, notamment dans certaines villes où il y a beaucoup de jeunes qui commencent par ce genre d'expression, notamment Sidi Belabès, Bourj Boualerije, Oran et d'autres villes. Les compétitions auront lieu au Théâtre National Mahidine Bechtarzi à Alger, c'est le TNA, c'est l'un des plus prestigieux théâtres en Algérie. Les compétitions auront lieu donc chaque jour dans l'après-midi. Il y a un jury qui est composé de comédiens et un universitaire, c'est Mohamed Ben Issa, qui est le président du jury, avec d'autres comédiens dans ce jury, notamment Adil Aswalem, qui est une comédienne très connue en Algérie. Il y a aussi des ateliers, puisqu'il y a une forte demande pour la formation aux arts dramatiques durant le festival, notamment pour l'éducation vocale, pour la critique théâtrale pour les journalistes, la musique ou l'utilisation de la musique dans le théâtre, ainsi que l'art de la parole, ce qu'on appelle le hakawati en Algérie. Il y a aussi des débats qui auront lieu durant le festival, notamment sur le rapport entre le roman et le théâtre, puisque beaucoup de théâtres en Algérie sont maintenant inspirés de textes de romans, comme ceux de Wassine El Arraj ou de Amin Zawi ou de Rabia Jalti. Et aussi, il y a un hommage qui est rendu à Tahel Amiri, qui est le doyen des comédiens algériens. Tahel Amiri était dans la troupe du FLN, le Front de Libération Nationale, durant la guerre de libération nationale, entre 1954 et en 1962. En plus, évidemment, tous les spectacles en compétition sont suivis de débats critiques avec la présence du public pratiquement tous les jours. Donc on s'attend à une participation de 400 à 500 personnes, entre comédiens, techniciens, metteurs en scène, dramaturges et critiques, durant ce festival qui va donc être clôturé le 1er janvier avec des prix, parce qu'il y a des prix qui sont accordés, dans le prix du meilleur spectacle, le prix du meilleur comédien, le prix de la meilleure comédienne et le prix de la meilleure scénographe.
Et comment se porte cet art aujourd'hui en Algérie, et comment se portent les théâtres régionaux?
Oui, en Algérie, il y a 18 théâtres régionaux, et aussi il y a beaucoup de coopératives dans le théâtre, ce qu'on peut appeler le théâtre indépendant, le théâtre privé. C'est un genre de théâtre, c'est l'un des arts les plus développés en Algérie, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers ce théâtre. Certains pensent que c'est la meilleure école pour le comédien, parce qu'on commence par le théâtre, notamment dans plusieurs régions. Il y a aussi des festivals, en dehors du festival national, il y a des festivals régionaux, notamment à Sidi Belabès et à Guelma, Sidi Belabès à l'ouest, Guelma à l'est. Aussi, il y a le festival du théâtre pour enfants à Khachla, le festival de la marionnette à Aïn Témouchent, le festival du théâtre féminin à Annaba. Donc il y a des festivals un peu spécialisés, thématiques. Et aussi, il y a une école de formation des arts dramatiques qui était à Borj El Kifane. Et maintenant, il y a des appels pour qu'il y ait plus d'écoles, notamment en formation aux arts dramatiques dans plusieurs régions du pays, puisque beaucoup de jeunes arrivent donc vers cet art, pensant que c'est la meilleure porte pour aller, si vous voulez, vers la télévision ou vers le cinéma.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Les États-Unis vont bien fournir à l'Ukraine leur système de défense antiaérienne le plus avancé. Le Patriot fait partie d'une nouvelle tranche d'aide militaire américaine d'environ 1,85 milliard de dollars. C'est une étape très importante pour créer un espace aérien sécurisé pour l'Ukraine, s'est félicité le président ukrainien aux côtés de son homologue Joe Biden. La Maison-Blanche insiste sur la nature défensive de la livraison. Un hommage a été rendu ce jeudi matin aux victimes de l'incendie de Vaux-en-Velin dans le Rhône. Une semaine après le sinistre, une marche blanche a débuté devant l'hôtel de ville. Le cortège a traversé Vaux-en-Velin pour s'arrêter devant l'immeuble où a eu lieu l'incendie. Incendie qui a fait 10 morts ainsi que 24 blessés. La grève à la SNCF durant le week-end de Noël. 2 TGV sur 3, 3 Ouigo sur 4 et 1 TER sur 2 seront en moyenne en circulation entre ce vendredi et dimanche prochain. Mouvement à l'appel du collectif des contrôleurs. Un autre préavis de grève court le week-end du nouvel an, du 30 décembre au lundi de janvier. Les usagers dont le TGV est supprimé sont avertis par mail ou SMS. L'invité de Pluriel était Céline Malaisé, conseillère régionale d'Île-de-France, membre du PCF, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne au conseil régional. Elle alerte notamment sur l'effondrement du réseau de transport en commun en Île-de-France. Extrait.
Valérie Pécresse dirige la région Île-de-France et son autorité organisatrice des mobilités, qui s'appelle Île-de-France Mobilité, depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, en fait, elle accumule des mauvais choix de gestion et en même temps une mise en œuvre d'un choix politique, même idéologique, d'accélérer la privatisation des transports en commun. Et les deux sont en train de se rejoindre aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Lors du Covid, bien évidemment, l'offre a été maintenue, mais baissée, puisque le nombre d'usagers à transporter était bien moindre qu'en 2019. En octobre 2021, lorsque les usagers commençaient à revenir dans les transports en commun, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, présidé par Valérie Pécresse, a maintenu la baisse de l'offre. Voilà, il y a des administrateurs, notamment communistes et insoumis, qui s'y sont opposés en disant que ça n'allait pas, que ça n'allait pas dans le bon sens et que ça allait créer des situations finalement de transport bondé. Peu importe, Valérie Pécresse a maintenu la baisse de l'offre sur 161 lignes de bus, sur la quasi-totalité des lignes de métro, sur les lignes des Transiliens, sur des RER, etc. Ça, c'est le premier choix qui est en train d'être perçu aujourd'hui. Parce que baisser l'offre, ça signifie que Valérie Pécresse se tourne vers la RATP et la SNCF, qui sont les opérateurs de transport, en leur disant « Nous avons fait le choix de baisser l'offre, vous allez donc mettre une offre de transport moindre. Et donc, puisque votre offre de transport est moindre, en fait, la RATP et la SNCF vont moins embaucher. » Donc, il y a moins aussi d'agents, de conducteurs qui vont être embauchés depuis la baisse de l'offre, depuis octobre 2021.
Mais quelle explication vous a-t-elle donnée ? Pourquoi a-t-elle attendu la fin de l'année, finalement, pour décider d'un retour de l'offre à 100% ?
Parce que dans un premier temps, Valérie Pécresse raconte des histoires. Dans un premier temps, quand elle fait bosser l'offre en octobre 2021, elle ne reconnaît pas publiquement que l'offre n'est pas à 100%. Elle a été interrogée à plusieurs reprises par la presse. Elle disait non, c'est mon opposition qui raconte que j'ai baissé l'offre. Ça n'est pas vrai. Or, c'était vrai. 10 associations d'usagers au début de l'année 2022 l'ont interpellée. Elle n'a jamais répondu alors qu'ils demandaient de rétablir l'offre à 100%. Des élus également locaux, notamment à peu près 60 maires, l'ont interpellée. Elle n'a jamais pris la peine de répondre. Et puis, mis devant la réalité, elle a bien dû reconnaître que l'offre était baissée. Elle a même dit en septembre de cette année que pour le retour à l'offre à 100%, il ne fallait pas rêver. Voilà, et je la cite en disant il ne fallait pas rêver. Et puis là, poussée en fait par des éditorialistes qui se sont rendus compte en prenant le métro que ça n'allait pas du tout, en fait, bah Valérie Pécresse a dit « Ah ben oui, je somme la RATP de remettre une offre à 100%. » Sauf que, bien évidemment, puisque ça fait plus de 2 ans qu'ils sont sur une offre réduite, ça ne peut pas se remettre en appuyant sur un simple bouton.
Céline Malaisé, présidente du groupe Gauche communiste écologiste et citoyenne au Conseil régional d'Île-de-France. Elle était l'invitée de Pluriel, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, quel avenir pour la Tunisie, plus d'une décennie après le printemps arabe, les invités d'Alexis Bachelet, l'historienne Sophie Bessis et Wissal Ayadi, journaliste indépendante, correspondante de l'AFP. Très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.